Déambulation.
Nous, ce qu'on dit alors chez les décroissants, enfin au mouvement des objecteurs de croissance, on se dit le revenu inconditionnel, enfin il faut des belles revendications. Et le revenu inconditionnel, c'est une belle revendication, dans le sens où ça tranche avec les revendications qui nous semblent être des abdications, de type du boulot pour tout le monde. Enfin, c'est, allons tous bosser dans des entreprises pour un patron, pour produire des trucs qui servent à rien, juste pour se consoler d'avoir trop bossé ou ce genre de choses. Plus de pouvoir d'achat pour tout le monde. Enfin, ce type de revendications qui finalement sont aujourd'hui portées par la gauche et qui mènent à rien d'autre chose que, enfin, pas autre chose que simplement essayer d'humaniser un peu un système qui est complètement aberrant. Donc du coup, le revenu inconditionnel, ça me semble trancher avec ce type de revendications parce qu'on propose vraiment autre chose, un autre imaginaire qui va avec. Donc c'est ce type de belle revendication qui, à notre sens, peut être porteur d'une mobilisation. En fait, c'est un peu notre... c'est pour ça qu'on parle de revenu inconditionnel.
Du 23 au 25 mai 2014, dans le Trièves, s'est déroulée la deuxième édition d'un festival politico-musical intitulé L'Échappée Rebelle. Cet événement convivial se déroulait dans le petit village du Percy. Le thème des réflexions et des échanges était le travail. D'ailleurs, le titre de ce festival, de cette édition 2014, était « Regardez-moi ce travail ». J'ai eu le plaisir de participer à une conférence organisée le dimanche matin sur le thème du revenu garanti. Différents points de vue et propositions se sont échangés entre les personnes à la tribune, à savoir Baptiste, Simon et Sophie, ainsi qu'avec le public qui était concentré et intéressé et qui était venu relativement nombreux les écouter. Je vous propose d'entendre un montage de cette conférence, sachant que Baptiste Milando est un fervent promoteur du revenu garanti. Et il va donc expliquer pourquoi, et que cette proposition a ensuite été examinée et critiquée de manière constructive.
Donc oui, bonjour. Je vais présenter donc brièvement ce que j'entends par revenu inconditionnel. Donc effectivement, après, je le disais, il y a différentes formulations qui sont utilisées. Donc moi, je parle de revenu inconditionnel ou de revenu de citoyenneté parfois, peut-être que j'en dirai un mot. Donc d'abord, présenter le revenu inconditionnel dans les grandes lignes, et puis ensuite, essayer de questionner un peu la société actuelle, donc notre société laborieuse, donc essentiellement tournée vers l'emploi et la valeur travail. Comment est-ce que le revenu inconditionnel permettrait de nous de poser un nouveau regard sur cette société et sans doute aussi, je l'espère, de transformer cette société. Donc d'abord une définition du revenu inconditionnel, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au clair avec la notion. Donc il s'agit d'un revenu, bon je ne détaille pas ça, inconditionnel, donc par inconditionnel on entend une double inconditionnalité. Donc versé sans condition, donc sans condition d'activité, sans condition d'inactivité, donc par rapport à prestations actuelles comme la prime pour l'emploi ou le RSA par exemple, sans condition de revenu non plus, donc qui serait versé à tous, et cumulable avec toute autre source de revenus. Sans condition d'abord, donc, et sans contrepartie ensuite. Sans contrepartie, donc sans qu'on demande aux bénéficiaires potentiels, enfin aux bénéficiaires tout court, de rechercher activement un emploi.
sans qu'on demande aux bénéficiaires de réaliser un travail d'intérêt général, donc dans une logique de workfare, comme ça a pu être proposé il y a quelques années par Copé, par exemple, pour ne citer que lui. Sans donc travail d'intérêt général, sans non plus qu'on exige des bénéficiaires qu'ils se retirent du marché de l'emploi, parce que ça peut être aussi une des versions proposées dans une optique libérale. C'est ce qu'on appelle aussi le titi-tainment, donc l'idée qu'on va verser un revenu inconditionnel et pour pouvoir maintenir la paix sociale dans une société qui n'arrive plus à offrir de l'emploi et donc une place dans la société à tout le monde. Donc c'est la société 80-20, 20% de la population qui produit suffisamment pour tout le monde et les 80% restants à qui on propose des divertissements, enfin du pain et des jeux, en gros. Donc ça n'a pas l'optique que je défends, évidemment. Donc revenu inconditionnel, double inconditionnalité, revenu versé à tous, donc tous les membres d'une communauté politique donnée. Donc dans mon optique, tous les résidents, alors je fais juste un point là-dessus, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dominique de Villepin, qui lors de la dernière campagne présidentielle avait proposé un revenu, enfin ce qu'il appelait un revenu citoyen, donc en faisant preuve d'un bel opportunisme politique, donc il avait parlé donc, de revenu citoyen, et moi dans un de mes livres, donc dans Ne pas perdre sa vie à les gagner, le sous-titre c'est pour un revenu de citoyenneté, et donc du coup j'insiste juste là-dessus pour expliquer la différence quand même de point de vue, évidemment, entre Dominique et moi. Dans l'optique de Dominique de Villepin, le revenu citoyen est versé uniquement, donc avec une condition de nationalité, versé uniquement aux citoyens. Dans mon optique, je parlais de revenu citoyenneté parce que c'est pas la nationalité qui va être la condition de versement du revenu, mais plutôt le revenu qui va être la condition d'une citoyenneté effective. Donc je pars du principe que si on veut pouvoir participer activement à la vie sociale, il faut pouvoir disposer de suffisamment pour vivre. Donc le revenu de citoyenneté, c'est le revenu comme condition d'accès à la citoyenneté. Donc de ce point de vue-là, moi je l'offre à tous ceux, enfin je voudrais verser à tous ceux qui sont résidents, qui se reconnaissent dans une communauté politique donnée. Donc verser à tous tout au long de la vie. Et puis dernier point de définition, il y a d'autres points de définition, mais je ne m'étends pas davantage, suffisant. Ça, c'est ce qui permet de faire la différence entre les propositions de droite et les propositions de gauche. Suffisant, alors ça peut se définir de trois manières. Suffisant déjà pour être à l'abri de la pauvreté. Alors bien sûr, après ça pose la question, mais qu'est-ce que c'est que la pauvreté, sachant qu'il y a différentes définitions possibles. Du coup, un deuxième élément, ce serait garantir l'accès aux biens et services essentiels. Donc un revenu qui permette de garantir l'accès aux biens et services essentiels. Et troisième élément, un revenu qui, parce qu'il permet de garantir l'accès aux biens et services essentiels, permet aussi de se passer durablement d'emploi. Et donc c'est ça vraiment le point de clivage entre les propositions de droite et les propositions de gauche. Dans les propositions de droite, l'idée c'est verser un revenu insuffisant, de telle sorte que les gens soient obligés d'avoir un emploi, même un emploi très très mal payé, en supprimant par exemple le SMIC, etc. Donc ils seraient obligés d'avoir un complément de revenu. Alors que dans les propositions de gauche, l'idée c'est vraiment changer le rapport de force sur le marché du travail en donnant la possibilité aux gens de refuser un emploi s'ils n'ont pas envie de le faire. Ça, j'y reviendrai là-dessus. Donc voilà pour les trois grandes lignes sur le revenu inconditionnel, donc double inconditionnalité versée à tous et suffisant. Alors maintenant, le lien entre revenu inconditionnel et travail ou emploi, je reviendrai peut-être sur la différence après. Alors moi, je suis lié au revenu inconditionnel, donc notamment avec ce livre « Ne pas perdre sa vie à la gagner ». Je suis lié au revenu inconditionnel à partir de la critique de la valeur travail. Donc ce qu'on appelle logiquement valeur travail, c'est la survalorisation de l'emploi, survalorisation sociale de l'emploi. Cette valorisation sociale de l'emploi qui fait de l'emploi la source exclusive ou quasi-exclusive. Alors, d'un supposé épanouissement personnel, source exclusive ou quasi-exclusive d'utilité sociale. Donc celui qui n'a pas d'emploi n'est pas jugé utile. Donc c'est un chômeur, c'est un parasite dans la bouche de Laurent Wauquiez par exemple. Utilité sociale, lien social également, l'emploi comme principale source de lien social, comme principale source de reconnaissance sociale, et en fin de compte, comme principale source d'estime de soi. Donc c'est ça la valeur travail. La conséquence de la valeur travail, c'est cette survalorisation de l'emploi, on se dit hors de l'emploi, point de salut. Donc je suis venu au revenu inconditionnel par cette critique de la valeur travail, en partant du principe qu'il y a des tas d'autres activités hors de l'emploi, qui peuvent être source de lien social, de reconnaissance sociale, d'utilité sociale, bien sûr. Donc à mon sens, il y a un lien direct évidemment entre revenu inconditionnel et travail, et le revenu inconditionnel permettrait de questionner notre société laborieuse. Et ce qui est bien avec le revenu inconditionnel, c'est qu'avant même sa mise en œuvre, il pose des questions. Ensuite, je verrai comment est-ce que, une fois qu'on l'a mis en œuvre, il peut aussi transformer la société, mais avant même sa mise en œuvre, il pose des questions. Et logiquement, l'une des premières questions qu'on pose quand on parle de revenu inconditionnel, mais si on met en place un revenu inconditionnel, plus personne ne voudra travailler. qui voudra encore travailler? Je ne sais pas si certains se posent la question parmi vous. Qui voudra encore travailler? Et à partir du moment où on se pose cette question-là, ça veut dire que, globalement, le boulot n'est peut-être pas si épanouissant qu'on croit. C'est peut-être pas l'activité si réjouissante qu'on nous vend. Et si c'est le cas, peut-être qu'il faudrait arrêter, par exemple, d'en créer à tour de bras. Enfin, d'essayer d'en créer à tour de bras. Enfin, ça n'a pas été dit dans ma présentation, je suis aussi décroissant et objecteur de croissance, donc faire du principe qu'il y a toute raison de chercher de croissance économique dans un pays aussi riche que le nôtre. Et donc du coup, sachant que le principal objectif de la croissance économique, enfin, la principale justification politique de la croissance économique, c'est la création d'emplois, on peut se dire, bon bah si on ne veut pas vraiment bosser, si une fois qu'on a un revenu inconditionnel en poche, on n'a pas envie d'aller au boulot, peut-être qu'il faut essayer de détruire autant que possible des emplois, et donc on peut assez facilement se passer de la croissance économique. Si on fait la croissance économique, l'objectif c'est de créer des emplois. Donc c'est ce que j'appelle la turbine à turbin en gros. On s'arrange pour créer autant d'emplois possible, quelle que soit la qualité des emplois, même s'ils sont mal payés, même s'ils se font dans des conditions de travail détestables, même s'ils n'ont aucun sens, parce que c'est ça aussi le drame de la société, c'est qu'on fait des choses qui n'ont souvent aucun sens. Tout ça pour créer des gagne-pains, ce qui ne sont que des gagne-pains, alors qu'on pourrait simplement arrêter de bosser, arrêter de produire des emplois. Donc ça c'est la première question qui vient, donc si on met en place un revenu inconditionnel, qui voudra encore continuer à bosser? Bon bah, si on se pose la question, voilà, ça pose des questions sur notre société actuelle. Deuxième question qui vient, qui voudra faire les boulots pénibles? En admettant que tout le monde veuille continuer à bosser, qui voudra encore faire les boulots pénibles? Encore une fois, une très bonne question posée à notre société actuelle. Aujourd'hui, qui fait les boulots pénibles? Est-ce que c'est juste? Aujourd'hui, on ne se pose pas trop la question, mais clairement, si on imagine la possibilité de refuser ces boulots pénibles, on se pose la question, qui les fera, qui les fait aujourd'hui? De fait, il faudrait partager davantage ces tâches pénibles. Donc, encore une fois, revenu inconditionnel ou pas, avant même sa mise en œuvre, il faut s'attaquer à ces questions-là. Donc, on a clairement un problème dans nos sociétés laborieuses en matière de partage des tâches. Je garde des points pour la discussion pour la suite. Une fois qu'on a mis en place un revenu inconditionnel, donc comment est-ce que ça pourrait nous permettre de transformer cette société laborieuse, une société plus ludique, pour reprendre un peu la formule de Bob Black, auteur de Travailler, moi jamais, que je vous conseille vivement. Le revenu inconditionnel nous permettrait de développer la liberté de choix des personnes et le pouvoir d'agir des personnes. Pouvoir d'agir qui doit être entendu à la fois comme une possibilité de faire et une possibilité de ne pas faire. Donc possibilité de ne pas faire, pour commencer. Possibilité donc de refuser un emploi, de refuser une tâche si on n'a pas envie de la faire. Alors après, ça va dépendre, enfin, la conséquence de tout ça va dépendre de l'utilité de la tâche. Si on estime que ce sont des tâches qui doivent être impérativement réalisées pour le bien de la société, bon là, il faut se poser la question du partage de ces tâches. Se pose surtout, de mon point de vue, la question, de l'exploitation. En gros, le revenu inconditionnel permettrait de refuser de servir. C'est un exemple que je prends au début de mon autre bouquin, La pour un revenu sans condition. Bernard Arnault, que vous connaissez, gagne chaque année l'équivalent de 240 SMIC. 240 SMIC, ça veut dire que bon, alors, si on met de côté ses dépenses de logement, entretien ses yachts, etc., on peut se dire qu'il a les moyens, concrètement, de s'offrir les services d'environ 200 personnes à plein temps payées au SMIC. Et le drame dans notre société, c'est que sans doute que ces 200 personnes n'auraient pas les moyens de lui refuser de le servir. Avec un revenu inconditionnel, on a la possibilité de refuser de le servir. Je voyais dernièrement, juste pour l'anecdote, un très riche américain, alors c'est un des vainqueurs de la Coupe de l'Amérique dernièrement, qui a un bateau, un yacht. Sur son yacht, il a fait construire un terrain, alors je ne sais pas si c'est un terrain de foot ou un terrain de basket, peu importe. L'idée, c'est qu'il y a des ballons dessus. Et le problème, c'est que quand il y a des ballons sur un yacht, des fois, ça tombe à l'eau. Et donc, du coup, il s'est offert les services de quelqu'un dont le boulot est d'aller chercher le ballon quand il tombe à l'eau. Voilà. J'ose espérer qu'une fois qu'on a mis en place un revenu inconditionnel, plus personne n'acceptera de faire ce type de boulot. Donc voilà, ça permet de ne pas faire. Ça permet également de faire, donc de développer le pouvoir d'agir, c'est-à-dire positif. Possibilité de faire autrement. Possibilité de repenser totalement nos activités, totalement le travail, à la fois dans l'emploi et hors de l'emploi. Donc dans l'emploi, en sortant du salariat, en s'affranchissant du salariat, notamment en développant tout ce qui est les formes coopératives, alors sous toutes leurs formes, les SCOP bien sûr, mais aussi les SIC, les coopératives intégrales, enfin, on voit un peu tout ce qu'on peut imaginer comme autre mode d'organisation d'activité économique, donc en remettant en cause le lien de subordination, en remettant en cause la propriété éducative du capital, donc à la fois le versement des dividendes et le versement de plus-value. lors de la revente des parts sociales, donc revoir complètement le cadre de l'organisation économique, et puis aussi développer les activités hors de l'emploi, donc hors de la sphère marchande, hors de la marchandise. D'une part, alors, je ne conçois pas le revenu inconditionnel sans une extension du champ de la gratuité à travers le service public ou les services collectifs, pour le dire différemment. Donc, extension du champ de la gratuité par cette voie-là, et puis également extension du champ de la gratuité en se disant qu'une fois qu'on a un revenu inconditionnel en poche, on a les moyens de donner, en gros. Donc le revenu inconditionnel, c'est en quelque sorte donner les moyens à tous de donner. Alors donner de son temps, donner de sa personne, etc. Pouvoir se rendre des services et donc rebâtir une société, enfin grignoter autant que possible la sphère marchande pour la remplacer par une sphère, alors soit basée sur une logique de don et de contre-don, donc sur le modèle d'Essel, alors soit sous une forme institutionnelle, soit sous une forme plus informelle, soit carrément entrer dans une logique purement d'entraide, où on aide les autres simplement parce qu'on a les moyens de le faire et qu'on a la bonne volonté de le faire. Donc le revenu inconditionnel permet d'entrer dans cette logique-là, dans cette dynamique-là, et de sortir progressivement de la sphère marchande puisqu'on n'a plus l'obligation d'avoir un emploi. Et donc à terme, c'est là-dessus que je vais conclure, à terme, à mon sens, le revenu inconditionnel permet d'amorcer une sortie du capitalisme. Alors c'est ce que Philippe Van Parijs, donc, qui est un philosophe belge qui milite pour une version du revenu inconditionnel qu'il appelle l'allocation universelle. Philippe Van Parijs, donc, dit le revenu inconditionnel, c'est une voie capitaliste vers le communisme. Alors communisme, entendu comme, suivant la maxime, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Je pense effectivement que le revenu inconditionnel permet une transition du capitalisme vers ce qu'on pourrait appeler un communisme si on garde cette maxime-là, notamment parce qu'il remet complètement en cause le rapport sur le marché du travail, qui pourrait redevenir un marché du travail et puis un marché de l'emploi, donc on arrête de considérer l'emploi comme un bien à part entière, quelque chose qu'il faudrait produire. On considère vraiment le travail comme force de travail, qu'on va proposer. Inverser le rapport de force sur le marché du travail, on a la possibilité de dire non. On a la possibilité de mieux définir ses modalités de rémunération, ses modalités de travail, le cadre de travail, etc. Inversion du rapport de force sur le marché du travail, donc on supprime le marché de l'emploi, on le remplace par un véritable marché du travail. On remet en cause les principaux piliers du capitalisme, à savoir la contrainte, l'obligation et l'incitation à travailler et à travailler trop. Enfin, bosser trop, avoir un emploi, surtravailler, on va dire. Et puis, également la marchandise, donc en grignotant autant que possible la marchandise. Je conclue, du coup, vite, pour ne pas pêcher par optimisme. Tout ça, c'est des possibilités, de mon point de vue. Donc, le revenu inconditionnel permet de se poser ces questions-là, et c'est déjà salutaire. Si on met en place, ça peut déboucher sur cette société-là, qui me semble souhaitable. Ceci dit, rien n'est sûr, donc il n'y a pas de lien nécessaire entre ces deux situations. Alors souvent, donc moi je dis je suis décroissant, mon point de vue, mon combat, c'est faire en sorte que le revenu inconditionnel conduise à une décroissance. Mais je sais qu'il y a des militants du revenu inconditionnel qui disent que le revenu inconditionnel c'est génial, ça permettra de relancer la croissance. On va redistribuer du pouvoir d'achat, on va pouvoir continuer à consommer énormément, et donc du coup ça permettra de relancer la croissance et en plus de créer des emplois, le rêve. Je me dis, le revenu inconditionnel peut mener aux deux solutions, même sans doute à beaucoup d'autres. Et donc le revenu inconditionnel n'est pas suffisant dans tous les cas, il doit s'accompagner de mesures complémentaires, donc je parlais de la gratuité, il y en a des tas d'autres que j'ai oubliés, il doit surtout s'accompagner d'un combat politique, d'un discours cohérent, qui permet de promouvoir un certain mode de vie. Mais déjà, avec ce revenu inconditionnel, avant même sa mise en œuvre, on pose les bonnes questions, donc je parlais des questions sur le travail, mais aussi des questions par exemple sur qu'est-ce que c'est la pauvreté, qu'est-ce que c'est que suffisant à partir du moment où on se dit un revenu suffisant, qu'est-ce que c'est que suffisant, à partir de quand est-ce qu'on a assez, une question qu'on ne se pose pas suffisamment dans une société de croissance, puisqu'on n'a jamais assez, il faut toujours plus. Le revenu inconditionnel permet déjà de se poser toutes ces questions et d'amorcer un débat politique qui tarde quand même à venir à mon sens.
Du centre-ville au quartier, des campagneuses aux bourgades, l'idée qu'il faut bien s'habiller fait son travail en brigade. On ne porte que de la marque qu'on arbore fièrement, on croit même qu'on se démarque alors qu'on vit conformément au modèle du novice sans autre chose que du futile qui engraisse les puissants. Ceux qui imposent leur style, qu'est-ce que l'on peut bien prouver en Lévis et en Lacoste. Moi j'arpente le pavé avec un polo Lacoste, ça donne de quoi discuter plutôt que de parler du ciel. Une voix, une facilité face au vide existentiel. Bonjour, moi c'est Calvin Klein, aujourd'hui moi c'est champion et à part ça tout va bien. On est tous les mêmes pions, certains pions n'ont pas l'argent pour faire comme les vrais bourgeois, accéder au bonheur marchand qui procure tant de joie. Ils se servent directement et les vitrines explosent, c'est plus drôle assurément, mais c'est quand même le respect de la clause qui dirige la population. Dans les ambitions faussées, la plongée dans l'obsession de ne jamais être dépassé. Sacro-sainte nouveauté que la religion des marchands doit sans cesse réinventer pour que l'on ne devienne pas méchant, pour qu'il n'y ait que la mode comme facteur d'identité, que tous nos gestes, tous nos codes, à ce que l'on possède soient limités. C'est une pieuse mission, acheter doit devenir un réflexe, ou alors c'est l'exclusion, tu seras mis à l'index. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Quand tu deviens adulte mature, ce ne sont plus les nouveaux vêtements, mais la nouvelle voiture. Il te faut te renouveler, renouveler ta pâture, car ta personnalité se trouve dans l'armature de ton signe de pouvoir, aux quatre jantes chromées et de ton bel objet de foire, que jalouseront les paumés. Et à force de consommer frénétiquement, on finit par transformer jusqu'à l'amour les sentiments. Tu me parles, tu m'ennuies, je te zappe avec mon portable. Mes amis sont des produits et dépendent de mes humeurs instables. On consomme du relationnel, chaque bonheur est biaisé, même les plaisirs charnels doivent être rentabilisés. Il est là l'homme nouveau, l'homme unidimensionnel, qui se sert de son cerveau comme du dernier logiciel, qui a pour seule ambition de posséder du bien matériel, seul facteur d'intégration au mode de vie officiel. L'homme du troisième millénaire sera le consommateur frustré, envieux, actionnaire, un con, un saut, un mateur. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme.
Et donc nous, dans le groupe de réflexion post-capitalisme, on a justement l'année dernière réfléchi ensemble et travaillé sur ce projet, cette proposition du revenu inconditionnel. Donc, on a amené des éléments critiques là-dessus, mais bien entendu, on est quand même d'accord sur la plupart des choses et des valeurs que Baptiste a présentées, que ce soit la critique de la valeur travail, changer, inverser les rapports de force sur le marché du travail et faire que les gens puissent refuser de servir, extension du champ de la gratuité, permettre d'amorcer une sortie du capitalisme vers le communisme. Ça, on est absolument d'accord avec ça, et puis s'attaquer de front à des questions sur qui fait les boulots pénibles et comment on répartit ces choses-là entre tout le monde dans la société. Voilà, ça fait bien sûr partie de tous les sujets dont on discute et des choses qui nous semblent importantes. Alors pourquoi est-ce que nous, on a critiqué cette proposition ? Eh bien, le premier point, c'est parce que ça nous semble potentiellement nourrir la posture de consommateur qui est extrêmement présente, extrêmement forte dans notre société, dans notre monde. Et on s'est rendu compte que même dans le travail, on se considère comme des consommateurs. C'est-à-dire qu'on ne se voit plus comme des producteurs dans le travail, mais comme des consommateurs qui doivent rechercher de l'emploi et se plier finalement aux conditions qu'on nous donne, sans avoir la conscience qu'on peut déterminer les conditions de travail, comment on s'organise avec les autres pour travailler et choisir ce qu'on produit. Voilà. Et donc voilà, ça c'est un premier point qui nous semble un risque, quoi. Et donc ça c'est en lien aussi avec le fait qu'on a l'impression que prendre la revendication du revenu inconditionnel comme un peu la base, le premier point, ce qui va nous rassembler pour lutter et pour essayer d'obtenir ça, pour lutter politiquement, c'est que on trouve que c'est insuffisant par rapport à une vision de l'économie post-capitaliste. C'est-à-dire que on met vraiment l'accent justement sur le consommateur, sur notre rôle en tant que consommateur, et pas assez sur la vision globale de l'économie qui est, ben, il y a une production qui amène à une consommation derrière, en tout cas à remplir des besoins. Et donc, on trouve que ce qui manque, c'est d'avoir une réflexion globale de l'économie, une proposition quand même plus, on va dire, générale. Et ça, ça rejoint un peu ce que, Baptiste, tu disais dans ta conclusion, que voilà, le risque du revenu inconditionnel, c'est que, ben, on espère, on souhaite que ça puisse mener, par exemple, à la décroissance, par exemple, voilà, à diminuer la consommation, à diminuer la sphère marchande et étendre le champ de la gratuité. Tout ça, on le souhaite, mais c'est pas garanti que ça fonctionne. Alors que nous, ce qu'on a l'impression, c'est que si on a une vision plus globale de l'économie et notamment des revendications plus fortes en termes de réappropriation collective des moyens de production et des choix de production, eh ben, qu'on a plus de chances que ça soit sûr que la lutte, elle mène à vraiment à ce qu'on veut, et qu'on puisse pas en quelque sorte soit être piégé, soit parce que bon, Sabatiste, il en parle aussi dans son livre, voilà, du problème que le revenu garanti, c'est aussi une revendication de droite dans une certaine mesure, et donc que ça peut aussi arranger les gens qui ont le pouvoir, les possédants, de se dire ben, on va accorder le revenu garanti, mais en échange on va voilà, supprimer tout le droit du travail, supprimer tout le système de la sécurité sociale et toutes les autres formes de revenus qui existent pour les personnes qui ne peuvent pas travailler, que ce soit les allocations familiales, allocations handicapées, etc. Et donc ça, c'est quand même des risques qu'il y a. Et nous, on a l'impression que si... Parce que bien entendu, nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas réclamer dans une société post-capitaliste un système à la fois de gratuité pour un certain nombre de biens et services essentiels et à la fois une forme de revenu inconditionnel. On ne dit pas qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais on pense que pour revendiquer ça, il faut en même temps revendiquer et lutter pour la réappropriation des moyens de production, la réappropriation des choix de ce qu'on produit et comment on le produit, et que ça implique quand même une lutte par rapport à ces personnes très peu nombreuses, les 1,5% qui possèdent, je pense dans le film de Pierre Carl, il disait 80% du patrimoine. Enfin, c'est vrai que c'est quand même très très massif comme situation inégalitaire. Donc voilà, ça c'est un premier point. Et alors un deuxième point aussi sur lequel on a un petit peu creusé quelque chose qui nous pose question dans le revenu inconditionnel, c'est le fait qu'on est dans des sociétés très colonialistes, très impérialistes, et que énormément de choses, de produits qu'on consomme et qui nous servent dans notre vie de tous les jours, eh ben, ils sont produits pas ici, pas en France, ils sont produits dans des pays où les gens ben, ont des revenus beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faibles qu'ici, de l'ordre par exemple de 50 euros par mois. Et donc c'est finalement la puissance monétaire de l'euro qui est liée à une puissance impérialiste, militaire, historique, etc., qui nous permet de nous retrouver dans une situation de dire ben, peut-être que il peut y avoir 20% de personnes qui produisent pour 80% de personnes qui ne produisent pas. Je ne sais pas si ces chiffres ils sont à l'échelle planétaire ou s'ils sont à l'échelle, c'est à l'échelle planétaire. En tout cas, ben, c'est sûr que pour l'instant, en France, si on instaure un revenu garanti en euros et qu'on ne change pas cette situation de colonialisme, eh ben, nous, ça nous pose quand même un problème de se dire qu'on va pouvoir peut-être, en effet, créer des rapports plus conviviaux, étendre le champ de la gratuité, de rapports plus intéressants et plus libres entre les personnes, mais en sachant qu'il y a toujours, pour ça derrière, des gens qui bossent dans des conditions presque vraiment pires que les pires conditions qu'on a en France, et pour des revenus vraiment extrêmement faibles. Quoi. Là, on ne parle pas en termes de SMIC, on parle en termes de presque rien par rapport à ce que nous, on a. Donc voilà, ça c'est aussi une question à laquelle on trouve que ça serait intéressant de répondre dans la proposition. Et donc au final, tout ça c'est une question stratégique. C'est bien une question de savoir sur quelle proposition on se rassemble pour lutter et quels moyens on met en œuvre pour lutter pour l'avènement de cette société qui irait vers le communisme comme tu l'as défini et qu'on souhaite, quoi. Voilà, peut-être encore un autre petit point par rapport, parce que ça t'en a pas mal parlé Baptiste, de cette question de l'utilité sociale qui fait réagir beaucoup de gens. On l'a vu dans le film de Pierre Carle vendredi soir, une bonne partie des gens qui réagissent assez fortement négativement à la proposition du revenu garanti, ça peut être en disant oui mais alors qui va accepter de travailler, qui va accepter de faire les boulots pénibles et quand même c'est dégueulasse que les gens ils reçoivent quelque chose sans rien produire. Donc bien évidemment c'est sûr que la société dans laquelle on est aujourd'hui, avoir un emploi ou avoir des revenus, parce que des gens qui ont des revenus du capital et qui n'ont pas d'emploi, donc avoir des revenus n'est pas du tout lié avec une quelconque utilité sociale, ni même les emplois avec quelque chose forcément de bénéfique, quoi. On peut gagner un salaire en produisant des armes, et ça pose pas forcément des problèmes à ces personnes-là qui vont être choquées par la création d'un revenu garanti. Mais en tout cas, cette question de... Et ça, c'est aussi en lien avec l'exploitation des pays du Sud. C'est-à-dire garantir la production, et garantir la production dans des conditions éthiquement et socialement justes, et ben ça, voilà, ça fait partie aussi des choses qui nous semblent importantes de réfléchir dans une proposition politique révolutionnaire. Et en se disant que cette production, donc le fait que si on définit un certain nombre de besoins et qu'on dit, voilà, ça, c'est les besoins de base... On considère que toutes les personnes d'une communauté politique donnée auxquelles elles doivent avoir accès, ben il faut que cette production elle soit faite pour que ces biens ils soient produits, ces biens et services. Et donc se dire que si on crée un revenu garanti, ben forcément plus ou moins les gens avec le temps qui va être libéré et avec aussi un rapport à l'existence qui va être libéré vont trouver les moyens d'y arriver. Ben on ne sait pas si ça va être le cas. Et le risque, c'est d'avoir une vision sous-jacente qui serait un peu libérale, qui rejoindrait la vision de la main invisible du marché en se disant, bah, forcément, spontanément, par la bonne volonté des gens, ça va marcher. Et ça, bah, on n'est pas sûr que ça soit le cas. Et donc là, je peux citer un peu un des économistes sur lequel on a pas mal travaillé, qui nous inspire bien dans le groupe PK. C'est quelqu'un qui s'appelle Albert, qui est un Américain, et qui, lui, a réfléchi... un modèle économique post-capitaliste qui est certainement très partiel, hein, qui ne répond pas du tout à toutes les questions et tout ça. Mais ce qu'on trouve intéressant là-dedans, en tout cas, c'est qu'il réfléchit vraiment à une articulation entre le rôle de producteur et le rôle donc, de consommateur dans ce qu'il appelle une démocratie économique. Lui, il dit, pour l'instant, il n'y a pas de démocratie économique, ça n'existe pas du tout. Et donc, lui, ce qu'il propose, c'est d'instaurer une forme de démocratie économique. Et il propose des formes de structures collectives assez précises, quoi, pour que, et en tant que consommateur et en tant que producteur, on ait vraiment notre mot à dire sur qu'est-ce qu'on veut qu'il soit produit, comment, et puis quels sont les besoins après. Et lui, il réfléchit quand même à des choses aussi assez précises en termes de comment inciter les gens à ce que les choses elles soient produites. Et donc lui, il parle de rémunération et de l'effort et de la pénibilité, ce qui serait assez différent du système qu'on connaît maintenant. Puisque nous, on est dans un système qui rémunère finalement les niveaux d'études et les niveaux... plus on est haut dans la hiérarchie, mieux on gagne sa vie. Et là, ça serait presque un peu une inversion, puisque plus on ferait un travail pénible et dans lequel il y aurait des efforts et donc qu'on aurait moins envie de faire, mieux on serait rémunéré. Donc ça, c'est aussi une proposition intéressante. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé.
je voulais commencer sur cette question de posture du consommateur. Le revenu inconditionnel est une revendication qui nous pose en tant que consommateur. On va recevoir un revenu. Généralement, on parle d'un revenu mensuel, donc ça va être une certaine somme d'argent que tout un chacun toucherait, tout un chacun, travailleur, non-travailleur, hein, mais que tout un chacun toucherait individuellement, personne par personne, on aurait une somme de monnaie mensuelle. Moi, la première question qui me vient à l'esprit quand on sort une revendication comme ça, c'est ce revenu, qu'est-ce qui va permettre d'acheter ? C'est ça, pour la plupart des gens, ça paraît évident, puisque nous avons tous des niveaux de vie assez moyens ou bas, et du coup, généralement, notre revenu nous sert à acheter d'abord à subvenir à nos besoins fondamentaux, loyer, consommation d'électricité, d'eau, nourriture, un petit peu de loisirs et tout, mais principalement les choses fondamentales. Ensuite, quand on commence à avoir un revenu un peu plus large, on se met à acheter tout un tas de marchandises diverses et variées, et tout notre système économique produit énormément de marchandises comme ça qui vont nous permettre de dépenser tout ce surplus de revenus en biens et services divers un peu plus accessoires. Et puis après, quand on veut acheter un peu des moyens de production, des choses comme ça, que ce soit des outils, des machines, de la terre, des bâtiments, des trucs un peu costauds, là on voit bien que par contre avec un revenu on est directement limité. Et du coup voilà, le revenu inconditionnel il nous pose comme principalement consommateurs qui vont acheter aux sommes qui sont envisagées, qui vont acheter des marchandises. À la fois les biens et services fondamentaux plus quelques marchandises, c'est un peu comme ça que c'est pensé. C'est un postulat un peu de départ, c'est basé sur ce qu'on vit actuellement dans la société actuelle et la façon dont on consomme. Vous pouvez imaginer que un revenu inconditionnel pourrait peut-être permettre de dépasser complètement ça. Il y a Dans ce qu'on réfléchit comme système économique alternatif, on envisage cette posture du consommateur. Comme l'a dit Sophie, on pense qu'il est fondamental et très important de se voir. Donc j'en étais à notre posture de consommateur. Donc la posture de consommateur, à la fois, elle peut être entendue comme on est simple consommateur, on fait que acheter des trucs, c'est un peu. C'est pas un rôle aussi important que producteur. Et à la fois, c'est quelque chose qui va rester dans le système futur, c'est-à-dire que le consommateur, c'est d'abord quelqu'un qui va exprimer sa demande, exprimer ses besoins. Et cette expression de la demande ou des besoins des gens, dans un système économique, c'est très important de l'avoir. On peut envisager plusieurs façons d'exprimer, de recenser les besoins des gens, mais une des choses qui fonctionne assez bien dans ce système-là, c'est que en attribuant un revenu monétaire et les gens le dépensant comme ils le veulent bien, c'est par leurs dépenses et qu'ils vont indiquer leurs préférences et acheter telle chose plutôt que telle autre. Et c'est ainsi que la demande et les besoins des gens, on va la retrouver dans une demande qui va être monétaire, qu'on appelle la demande solvable du coup. Et c'est sur cette demande solvable que vont s'appuyer toutes les productions qui vont pouvoir répondre à ces besoins. Donc le revenu inconditionnel, il a ce bon côté de nous mettre en tant que consommateurs qui exprimons notre demande auprès du système productif. Vous qui êtes ici dans le Trièves, j'imagine que vous essayez tous de développer des productions. Vous êtes tous ici, je pense, assez autoproducteurs ou en tout cas organisés dans des petites structures de production. Peut-être qu'il y a encore des employés parmi vous, mais je pense qu'ici peut-être moins. Et du coup, en tant que producteur, vous devez bien voir cette question de la demande solvable de la clientèle. Et le revenu inconditionnel, il permettrait notamment à des populations qui ne peuvent pas aujourd'hui exprimer leurs demandes parce qu'ils n'ont pas de revenus, d'en avoir un et de le faire. Et peut-être que ça permettrait de mettre en place des productions auprès de ces gens-là pour répondre à leurs demandes et des productions qui seraient cette fois solvables parce que ces gens ont un revenu. Donc voilà. Deuxième point sur la... Qu'est-ce que je voulais dire deuxième fois sur la consommation? Ah oui, c'est en tant que consommateur par contre, et c'est là où on évoquait des points de vigilance tout à l'heure, en tant que consommateur, on peut très bien avoir des comportements qui sont ravageurs. Quand on est aujourd'hui occidental. Ah.
quand on est quand on est aujourd'hui un occidental, eh ben, on voit que notre consommation n'est pas très responsable. On consomme énormément de pétrole, on consomme des marchandises qui viennent de très loin. On est dans un système qui est complètement insoutenable. Mais en face de ça, on a tous pu constater que depuis 10-20 ans, il y a toute une réflexion, une logique et des pratiques de consommation responsable qui se sont mises en œuvre. Et cette consommation responsable, donc, que ce soit du commerce équitable ou de consommer bio ou de consommer local, de consommer des producteurs locaux et ainsi de suite, bah, c'est pour moi une ébauche de ce que va être un consommateur futur, donc à la fois qui va influencer la production et à la fois qui va de toute façon devoir être responsable de sa consommation. Donc puisque c'est une critique que nous on fait, c'est avec la critique qu'on fait de ne pas se retrouver en nouveau colonisateur moderne qui bénéficie d'énormément d'euros pour acheter à travers le monde. Disons que pour accompagner cette revendication et faire face à ce point de vigilance, il va bien falloir continuer cette culture de la responsabilité du consommateur. On ne peut pas se permettre d'être des simples consommateurs qui disent « ça y est, youpi, on a un revenu, on en fait ce qu'on veut ». Pour vous donner un exemple concret, il y a les aborigènes en Australie, ils ont depuis, je crois, 7 ou 8 ans maintenant, ils reçoivent de la part de l'État australien un revenu inconditionnel en contrepartie des dommages que leur culture entière, que tout leur peuple a reçu. Et ce revenu inconditionnel, dans un premier temps, il a surtout, comment dire, sans être méchant, il a surtout permis aux aborigènes d'aller s'abreuver au bar du coin, parce que de toute façon, dans leur culture, dans leur société, bah, ils ne dépensaient pas d'argent, rien n'était marchandisé, tout était gratuit, et du coup, ils se retrouvaient avec cette somme d'argent, et voilà, du coup, cacheter avec ça, et ben, principalement, ça a été de l'alcool. Et du coup, ça posait problème, et un aborigène, ou c'était peut-être plusieurs, mais en tout cas on en a entendu parler d'un, s'est dit « ce n'est pas normal, il va falloir faire quelque chose, cet argent il peut se servir à autre chose ». Et du coup, au lieu de s'en servir pour consommer, ils l'ont mutualisé. Et petit à petit, ils ont créé une caisse dans laquelle ils ont versé tout le revenu qu'ils recevaient du gouvernement. Et en fait, petit à petit, ils essayent de racheter leurs terres et de récupérer leurs domaines ancestraux grâce à ce revenu. Du coup, ils ne le dépensent plus en tant que consommateur, mais en tant qu'investisseur. Ils récupèrent des moyens de production, ils récupèrent du terrain. Et on peut aussi envisager qu'avec un revenu inconditionnel, on consommerait peut-être moins, peut-être plus local, peut-être plus cela. Avec le revenu inconditionnel, une partie pourrait servir à financer des caisses qui permettraient de mettre en place des activités. Donc là, j'en viens à mon deuxième point, qui va être cette question de l'emploi et des activités. Puisque c'est un peu le sujet là, qu'on a là ici. Alors le revenu inconditionnel, ça a été dit, il va permettre de déserter l'emploi, ce qui est une très bonne nouvelle. Quand on pense aux industries d'armement, par exemple en France, ça paraît assez difficile de les stopper frontalement. Par contre, en faisant déserter tous les travailleurs qui sont dedans, bah, peut-être qu'on a une chance qu'on arrête de fabriquer des armes en France un de ces jours. Ça ferait du bien au monde. Voilà, donc ça c'était pour le revenu inconditionnel. Et du coup, sur ces questions d'emploi, par contre, je pense qu'il faut aller, comme l'a dit Sophie, beaucoup plus loin que la simple posture de consommateur. Les questions d'emploi, elles se trouvent vraiment dans les mains des producteurs. C'est là où on va passer à des choses qui sont un peu plus systémiques, c'est-à-dire un revenu inconditionnel ne sera jamais suffisant pour libérer les gens de l'emploi. Ce qui permettra de libérer les gens de l'emploi, ce n'est pas qu'on arrête de produire l'emploi. Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ça. Je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on produise l'emploi de nous-mêmes. C'est-à-dire que nous récupérions cette fonction d'employeur. Les employeurs, actuellement, ce sont soit l'État, soit les patrons. À part les autres employeurs qui s'auto-emploient, mais sinon, ce sont donc les patrons et l'État. Je pense qu'il est tout à fait envisageable d'envisager de récupérer cette fonction d'employeur et de commencer à employer nous-mêmes. Et c'est là où après on va laisser la discussion, mais je finirai là-dessus. C'est là où on va toucher à ce qui remplacera le capitalisme plus tard. C'est qu'à un moment ou à un autre, toutes les fonctions économiques, il va falloir qu'on les récupère nous-mêmes. C'est pas seulement en ayant une influence sur des règles de répartition, d'échange ou de droits d'accès, même aux moyens de production et tout, qu'on va arriver à vraiment prendre en main cette société. Cette société, on la prendra en main quand on s'occupera nous-mêmes des principales fonctions économiques, quand on les aura récupérées collectivement. Pour vous donner une idée du chantier, nous, c'est un peu tout ce à quoi on travaille à PK. Récupérer les systèmes économiques. Donc là, on parlait des règles d'échange, hein, principalement de travail et de marchandises. Mais du coup, c'est récupérer la production et l'organisation du travail nous-mêmes. Donc, vous pouvez le connaître peut-être ici à travers le modèle de SCOP, le modèle associatif, pareil, un autre employeur. On s'organise et on définit les conditions de production nous-mêmes. Mais ça, le faire à beaucoup plus grande échelle et un peu partout, et que plus personne ne puisse être exclu des décisions de production et d'organisation du travail. Une autre partie, c'est cette question de visibiliser les besoins et organiser la demande. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui, à un moment, il va falloir se responsabiliser là-dessus. Le revenu inconditionnel, c'est qu'une somme d'argent, mais cette somme d'argent, elle va permettre d'acheter des choses. Ces choses, il va falloir les produire. Comment on va les produire? Qu'est-ce qu'on va produire? Toutes ces questions-là, il va falloir se les approprier. S'approprier aussi la maîtrise des coûts, c'est-à-dire des productions qui sont plus ou moins coûteuses, comment on va les évaluer nous-mêmes. Et au final, réfléchir à la fin sur les questions de comment on s'échange les choses et comment on se les répartit entre nous. Sur ces questions-là, il y a la question du revenu, mais sur la question de l'échange, par exemple, je vais finir sur une question. Si on veut mettre en place un revenu garanti, rien n'empêche, par exemple, de le mettre en place à un niveau local, dans une monnaie locale. Rien n'empêche si ce n'est la loi. Hein. Par contre, la loi empêche ça. Mais si aujourd'hui, demain, dans le Trièves, vous souhaitez mettre en place un revenu garanti, créez une monnaie locale, donnez, 500 unités de cette monnaie locale à tous les résidents du Trièves, et vous verrez bien ce qui se passera en termes de désertion, de création d'emplois, d'activité, d'échanges et tout ça. Mais à partir du moment où vous aurez fait ça, vous pourrez commencer à vous prendre un peu toutes ces questions concrètes de moi j'ai 500, je sais pas quelle monnaie on pourrait utiliser pour le trier, mais bon, j'ai 500, une petite idée. Hein, trèfle. Les trèfles,
ouais. Les noix ici.
Ah,
les noix.
Les noix, le trèfle.
Ah non, les noix, c'est un
terrasse. Pas les noix, pas les noix.
Alors, qui serait pour les noix? Personne, le trèfle. Bon, le trèfle, il y a un peu de... Alors, imaginons que chacun possède 500 trèfles. Qui est prêt, qui sera prêt demain à vendre des productions en trèfle? Qui sera prêt demain à, autoriser tout le monde à bénéficier de ces productions parce que tout le monde aura un revenu garanti en trèfle? Qu'est-ce que vous ferez de ces trèfles? Est-ce que ça vous permettra de développer des coopératives et tout? Vous verrez, quand même.
Que vous venez d'entendre a été réalisé dans les studios de Erdiwa Adi et c'était on va dire le premier volet de cette émission consacrée à des réflexions et des critiques autour du revenu inconditionnel. Donc je vous rappelle qui étaient les trois intervenants. Il y avait Baptiste Milando, Sophie et Simon. Et puis les musiques que vous avez pu entendre, et bien il y avait des musiques du groupe chilien Inti Illimani, des musiques de Oivavoy et un morceau du groupe Bistanclac et un extrait d'une compilation de musique Klezmer. Alors ben, je vous donne rendez-vous bientôt, on ne sait pas encore quand, mais bientôt, pour la suite, c'est-à-dire des discussions avec le public et diverses réflexions autour de ça.